7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins à l'heure d'été avec notre série en direct Vivre en ville. Avant-hier, nous étions à Moscou, la ville bling bling. Hier à Bangkok, la ville sous tension. Et aujourd'hui, vivre dans une ville énergivore, Hong Kong, en Chine. Bonjour Florence de Changy.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes correspondante pour RFI, le journal Le Monde. Vous vivez à Hong Kong depuis 8 ans maintenant, hein,
oui.
Dans cette ex-colonie britannique passée sous tutelle chinoise en 1997. Et comme chaque jour dans cette série d'été, c'est vous qui avez choisi le titre de l'émission, Hong Kong, ville énergivore.
C'est vrai. Alors, on avait pensé d'abord Hong Kong, ville debout, parce que j'aimais bien l'idée que c'est une ville qui dort debout, qui ne se couche jamais, et puis la verticalité aussi de la ville. Et puis finalement, énergivore, parce que ce qui domine pour les gens qui visitent, et aussi pour ceux qui vivent à Hong Kong, c'est l'énergie. C'est une ville qui regorge d'énergie, et qui dévore l'énergie aussi, qui dévore l'énergie des gens, des immeubles, des transports. On gaspille aussi beaucoup l'énergie. Donc autour de ce thème-là, il y avait beaucoup de choses à dire.
3 portables par personne, téléphone portable.
Oui, ça c'est effrayant. D'ailleurs, il y a des taxis dans lesquels vous rentrez, vous avez un peu peur parce qu'il y a un écran, on croirait rentrer dans un Boeing. Ils ont 7 à 8 portables devant eux. On se demande ce qu'ils regardent exactement parce qu'il y a des tas de deals. Et effectivement, le taux de pénétration des téléphones intelligents est de 95%.
Ce ne sont même pas des téléphones portables, non. C'est directement des smartphones,
oui,
bien évidemment.
Oui.
Alors, on parlera des grandes manifestations pro-démocratie de l'automne dernier qui ont défié le pouvoir chinois. Je pensais d'ailleurs que vous choisiriez un titre autour de la contestation, mais vous m'avez dit, mais à Hong Kong, tout semble déjà si loin.
Si loin.
Oui, au sens...
Ah oui, c'est vrai,
c'était
ça passe
très vite.
C'était il y a quelques
mois seulement.
Absolument, absolument. L'ordre est revenu très, très vite. Le jour même, en fait, quand tout à coup on a fait le ménage, du jour au lendemain, cette arcade de 8 voies qui avait été un bivouac, un camping phénoménal pendant 75 ou 79 jours, était redevenue une double voie avec les taxis.
Et donc, énergivore plus que jamais.
Absolument.
Finalement. Énergivore, on compte plus que toute autre ville chinoise, vous diriez ? On pourrait dire ça de Shanghai, de...
Sans doute, mais vraiment, ce qui marque Hong Kong, quand on la compare, c'est vrai que d'un certain côté, quand on revient de Chine à Hong Kong, c'est un petit côté provincial quasiment. Elle est minuscule, la ville de Hong Kong, par rapport à une ville chinoise. Mais malgré tout, les gens qui y viennent vous disent que c'est comme New York dans les années 30. Donc voilà.
Vous êtes aspirés. Les voisins et les voisines, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à Florence de Changy sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, aussi bien d'ailleurs sur les prix délirants de l'immobilier que sur le mouvement pro-démocratie ou les aspirations des jeunes à Hong Kong. 7 millions d'habitants, autant dire un village comparé aux autres villes chinoises, mais une des plus fortes densités au monde. 30 degrés aujourd'hui, soleil à peine voilé dans la ville énergivore. Bang Bang, Big Band, chez 7 milliards de voisins, vivre dans une ville énergivore, Hong Kong, aujourd'hui avec vous Florence de Changy. On ne peut pas raconter la vie quotidienne à Hong Kong sans rappeler le statut très particulier de cette ville, parce que finalement tout découle de l'histoire et de la situation politique.
Absolument, et enfin tout le monde est toujours un petit peu perdu parce que on se dit Hong Kong c'est la Chine, en même temps on parle des problèmes de Hong Kong avec la Chine. En fait, Hong Kong a été donc pendant 150 ans une colonie britannique, et il y a eu cette rétrocession en 1997 où officiellement Hong Kong allait retourner vers la Chine, mais il y a pour ça une période de transition de 50 ans. Et pendant cette période de transition, Hong Kong conserve un certain nombre de ses prérogatives, dont fondamentalement son état de droit, et ça c'est une différence capitale avec la Chine, un système juridique, une justice complètement indépendante, et puis un certain nombre de lois qui sont sauvegardées par la mini-constitution qui s'appelle la Basic Law, au premier rang desquelles la liberté d'expression. Et ça, la liberté d'expression, c'est vraiment dans le DNA, qu'est-ce qu'on dit en français ?
L'ADN.
L'ADN de Hong Kong, la liberté d'expression, donc toutes ces grandes manifestations, y compris pour célébrer Tiananmen, le 4 juin chaque année, c'est le seul endroit, la seule ville chinoise, parce que Hong Kong a la liberté d'expression. Mmh. Et puis donc, effectivement, le système juridique, une monnaie indépendante,
les entreprises
etc.
ont confiance quand elles s'installent à Hong Kong aussi, en
absolument.
Termes de justice.
Absolument. C'est une des raisons. Ça fait partie vraiment des fondamentaux.
Aucun sens de comparer Hong Kong à une ville chinoise. Vous me le disiez, c'est la ville la plus occidentale de l'Asie.
Sans aucun doute. C'est vraiment, enfin, moi j'ai habité aussi en Malaisie, à Taïwan, et depuis plus de 15 ans en fait. Et je me souviens, ce qui m'a frappé lors de ma première visite à Hong Kong, à la période de Noël, c'est qu'on se croirait à Londres. On est soi-disant en Chine, mais vous avez des sapins de Noël et des vitrines comme sur le boulevard Haussmann, et ça, ni en Malaisie, ni à Taïwan. À Taïwan, il y a bien des petits chapeaux de Père Noël sur la tête des caissières, mais ça va plus loin que ça. Pas plus loin que ça. Alors ça, c'est un exemple, mais c'est vrai que c'est extrêmement occidental.
Et des tubes très sirupeux, en revanche. C'est de la cantopop, ça ne fait pas du tout ville énergivore, Florence de Changy. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez mis au programme musical.
Non mais c'est assez typique quand même, parce que la cantopop en fait, qui a eu ses heures de gloire, hein, c'est un peu baissé depuis, quasiment depuis la rétrocession, mais c'est un style et ça s'appelle cantopop justement parce que c'est de la région de Canton, donc du sud de la Chine et de Hong Kong.
Donc on chante en cantonais là, hein.
Là, on chante en cantonais, mais il arrive aussi, en fait, c'est un mix, vraiment. Ils ont des influences un peu de partout, y compris de la musique occidentale, du jazz, du rock. Et c'est un style musical qui a eu beaucoup d'influences, y compris jusque en Malaisie, à Singapour. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les Coréens qui ont ce même genre de musique, de pop musique, ont beaucoup de succès à Hong Kong.
Vivre à Hong Kong, ville énergivore, malgré les tubes sirupeux de la cantopop, c'est une ville où, vous me le racontiez, c'est difficile finalement d'imaginer, mais on est dans une ville où il n'y a pas de banc, il n'y a pas d'endroit pour s'asseoir.
Ah hein. Oui, tout à fait. C'était ça aussi un peu l'image de la ville debout. parce que ça m'a frappée. Moi, j'utilise beaucoup les transports publics. Et alors, il y a un certain nombre d'endroits où les citoyens ont pris l'initiative de descendre de chez eux ou de récupérer sur des piles de déchets, parce que les gens jettent énormément. Comme ils ont très peu d'espace, ils jettent énormément. Et donc, il y a des assemblages de chaises ou de bancs spontané, disons, à des endroits où le gouvernement ne procure pas d'endroits pour s'asseoir, parce que personne n'est censé s'asseoir. Mmh. On marche, on court, mais on ne s'arrête pas. Mmh. Hein,
on et on court après, bien sûr, le business. On est là pour le business, on vit pour le business, par le business. La finance, bien sûr, qui est omniprésente. Hein.
Oui, on peut dire l'argent, en fait. Ouais. L'argent, c'est quand même, c'est quand même le maître mot de Hong Kong. Et malgré tous ses défauts, ça fait des années qu'on dit qu'à cause de la pollution, les gens vont partir à Singapour, etc. Concrètement, avec une fiscalité qui est une des plus basses du monde, c'est-à-dire que sur les salaires, c'est 16%, et sur les sociétés, les profits des sociétés, c'est 16% aussi. Et il y a beaucoup d'autres choses comme les plus-values en bourse.
Les salaires sont taxés à 16%.
Au maximum, au grand maximum. Ça, c'est quand vous êtes vraiment très, très riche. Ouais. Et de toute façon, les gens qui sont vraiment très, très riches s'arrangent pour ne pas avoir de salaire. Évidemment. Et n'avoir justement des plus-values.
Donc, pour tous les cadres supérieurs qui travaillent dans les banques internationales, combien de banques internationales installées à Hong Kong aujourd'hui? Plus de 200,
non? Oui, au total, il y a 220 marques, maisons de banques, ouais. Et des milliers de grandes entreprises internationales, dont un tiers a son siège régional à Hong Kong.
Pour des raisons fiscales?
Pas seulement, parce que Hong Kong, c'est avant tout la porte d'entrée vers la Chine. Ça l'a été, ça l'est de moins en moins, parce que la Chine s'ouvre. Donc plus la Chine s'ouvre, plus Hong Kong perd son statut un peu privilégié de porte rassurante vers la Chine. Et c'est vrai pour la bourse aussi. La bourse, elle est fondamentale à Hong Kong. Il y a énormément de valeurs chinoises qui sont en fait cotées à Hong Kong. Parce que même pour les Chinois, c'est plus sûr d'être à Hong Kong. Donc c'est Hong Kong aujourd'hui, son rôle est avant tout en rapport avec la Chine. C'est une porte d'entrée et de sortie vers la Chine.
Conséquence sur la vie quotidienne, c'est qu'on est dans l'une des villes les plus chères du monde.
Absolument. Pour le pas de porte des commerces, c'est la ville la plus chère du monde. Alors après, on se dispute toujours le premier rang ou le podium avec d'autres villes. Mais c'est effrayant.
Mais alors, pour un petit épicier, par exemple.
Écoutez,
comment fait-il? Enfin, il n'y a pas que des boutiques de luxe, il y a des petits commerces d'alimentation. Comment font-ils le pas de porte?
En ce moment, il y a un véritable exode. Par exemple, dans Central, le meilleur rapport qualité. Enfin, les boutiques.
Central, c'est.
Alors, Central, c'est le quartier central, en fait. C'est la city de Hong Kong. Et vous avez, alors par exemple, il y a un magasin qui s'appelle Abercrombie & Fitch, vous le connaissez certainement.
Marque américaine de prêt-à-porter.
Grosse marque américaine. Ils ont beau vendre leurs t-shirts sans doute à plus de 100 euros, leur loyer est de 7 millions de Hong Kong dollars par mois. C'est-à-dire 850 000 euros.
Par mois.
Donc, même si vous vendez beaucoup de t-shirts à 100 euros, je ne sais pas comment ils font. Ils ont 4 étages, certes, dans Pedder Street, qui est un des très beaux axes, en pleine city. Mais c'est quand même impossible. Donc, les petits commerçants ont fui.
Et pour les habitants, alors, de la classe moyenne, ça veut dire vivre dans quoi au quotidien?
Vivre dans des cages à lapins, c'est vraiment incroyable. Il y a plus de 60% de la population est logée dans des logements sociaux, disons, auquel cas le loyer est abordable. Mais les espaces sont ridicules. C'est quand vous visitez quelque chose de normal, vous croyez qu'il y a juste une erreur, ou bien vous n'avez pas encore vu la vraie pièce, parce que vous arrivez, c'est déjà fini. Et on vous explique que là, c'est le coin cuisine, et que là, c'est le coin salle de bain, et que ça y est, vous avez visité l'appartement. Donc,
les prix de l'immobilier ne sont pas touchés par la récession chinoise, ou les villes chinoises, ça a commencé à baisser un tout petit peu.
Disons que ils ont tellement souffert de la spéculation des Chinois qui ont beaucoup acheté à Hong Kong, que même si ça baisse un petit peu, on est encore très loin du compte. Il y a juste deux jours, il y a un petit projet, à vrai dire, immobilier qui a été lancé pour aider les jeunes couples à acheter. Il y a 300 appartements qui sont mis sur le marché. Le prix du mètre carré est de 18 000 euros. Et ça, c'est subventionné à 20% par l'organisme. comment
Alors, ça veut dire que pour un jeune couple, même si tous les deux travaillent, qui veulent se marier, fonder une famille, comment font-ils
Ils vivent chez leurs parents, en fait. Ils s'arrangent. Il y a énormément de gens.
On a des jeunes couples qui vivent séparément chez leurs parents.
Oui, ou alors il y en a un qui va chez l'autre. Et d'ailleurs, on commence à voir quelque chose qui est plus répandu au Japon. C'est un peu des love hotels, parce que ces pauvres couples qui vivent quasiment sur le canapé-lit dans la même pièce que les parents, ont besoin d'intimité. Et ça, c'est une conséquence directe, effectivement, de cette crise.
Voilà pourquoi aussi les grandes manifestations de l'automne dernier réclamaient plus de démocratie, mais aussi sur fond de malaise social. Entendre là, Florence de Changi, dans la ville énergivore, Hong Kong.
Ça, c'est un air que je connais par cœur, au gré des manifestations. C'est un des chants pro-démocratie. Et c'est vrai que Hong Kong, grâce à sa liberté d'expression dont on parlait avant, et à cause de la menace dans laquelle elle a l'air de vivre avec l'approche de 2047, qui sera donc le rapprochement total à la Chine, il y a cette réclamation, cette soif de démocratie. Et donc, ces chants de ralliement, on les entend en fait à plusieurs reprises dans l'année. Évidemment, le 4 juin, comme je le mentionnais, parce que c'est la célébration du massacre de Tiananmen. Le 1er juillet, parce que tous les 1er juillet, depuis la fameuse rétrocession, il y a en même temps un très grand défilé dans la rue. Et c'est toujours une des choses que l'on réclame. Les prix de l'immobilier, ça fait partie aussi. Mais donc, voilà, la démocratie, ça fait vraiment aussi partie de l'ADN hongkongais.
Alors il faut rappeler tout de même quelle a été l'ampleur de ces manifestations. C'était du jamais vu dans l'histoire de Hong Kong.
Oui.
Ce boulevard circulaire à 4 voies,
neuf voies,
fermé sur quoi
Pas tant que ça,
sur un kilomètre à peu près.
Même pas. Oui. En fait, c'est sûr qu'avec les images, etc., on a toujours l'impression que c'était pire, et beaucoup de gens ont même dit Hong Kong est fermé, ce qui était complètement faux. Mais c'est vrai que, disons que ce serait aussi large que les Champs-Élysées.
Étrange tout de même dans une ville comme
exceptionnel,
Hong Kong.
Totalement exceptionnel, surtout que c'est quand même une ville très policée où les gens sont extrêmement civils. Et d'ailleurs, c'est un des aspects qui a frappé à propos de ce mouvement, c'est que malgré cette désobéissance civile, c'était remarquablement respectueux de l'environnement, des autorités, même de la police dans certains cas. Enfin, non, ça a été un très très grand mouvement, et je pense qu'on a vraiment pas fini d'en évaluer les conséquences et la signification.
Alors justement, on disait en toile de fond ce malaise social, en quelques mots, l'amertume de la jeune génération, comment vous pourriez la qualifier, sur quoi elle se cristallise, sur ces jeunes couples qui ne peuvent pas habiter ensemble à cause des prix de l'immobilier et d'autres choses.
Il y a ce que je ressens un petit peu comme une angoisse quand même dans cette jeune génération, qui d'un certain côté est très éduquée et est bien éduquée. C'est-à-dire que moi, je suis toujours frappée dans toutes ces manifestations dans lesquelles je vais par le niveau de culture et d'études et d'intelligence qu'ont vos interlocuteurs.
Une ville énergivore, donc, mais avec aussi un certain savoir-vivre, on va en parler. Florence de Changi, vous restez avec nous, suite de la vie à Hong Kong, juste après le flash. Restez avec nous, bien sûr, les voisins, et vous pouvez poser vos questions en direct sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant, juste après le flash, sur RFI, bien sûr.
De voisins. On est ensemble.
bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins à l'heure d'été. Et si vous changiez de vie chaque jour, au gré de nos escales, de nos récits, aujourd'hui vivre dans une ville énergivore, Hong Kong, en Chine, ou plutôt sous tutelle chinoise, avec un statut bien particulier, vous nous l'expliquiez, Florence de Changy, correspondante pour RFI et le journal Le Monde, en première partie d'émission, donc sous tutelle chinoise, avec une rétrocession totale qui devrait être prévue en 2047, hein, c'est bien cela. Hong Kong, colonie britannique, donc de 1842 jusqu'en 1997, et puis donc de nouveau chinoise, une ville où il est interdit de manger dans le métro, mais qui était une ville très sale autrefois, beaucoup de virus.
La peste
a été découverte à Hong Kong par un Français, hein, c'est bien ça.
Ouais.
Et cette année, c'est le 120e anniversaire de la découverte de la peste. Les Anglais ont inculqué les bonnes manières, hein, c'est ça, à tel point que les Hongkongais trouvent souvent leurs voisins chinois du continent mal éduqués, sales. C'est un antagonisme qu'on retrouve en permanence dans la vie quotidienne, et on va en parler avec vous, Florence, un antagonisme peut-être d'autant plus fort que la ville est densément peuplée. C'est une des densités les plus fortes au monde, où le moindre écart de savoir-vivre peut être vécu de manière assez insupportable. On descend dans le métro. C'est
D'accord.
bien ça, on descend hein, pour le métro, il pas
ah oui, absolument.
Aérien.
Oui, il y a certains trains qui sont sur les nouveaux territoires.
Allez, descendons tout de suite. Pas de doute, nous sommes bien au cœur de la ville énergivore à Hong Kong, Florence.
Ouais, ça fait une petite bouffée d'adrénaline d'entendre tous ces bruits.
Ah oui, carrément.
On s'imagine de nouveau dans cette marée humaine. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est incomparable.
Avec les haut-parleurs là, qui parlent en cantonais, mandarin et anglais.
Absolument.
Et qui disent quoi, là, ce qu'on a entendu?
Alors, ils disent, il y a des annonces standards. Ils disent aussi, justement, récemment, depuis un an ou deux, ils rappellent aux gens de ne pas avoir les yeux rivés sur leur téléphone portable, mais aussi de regarder où ils marchent, parce qu'il y a eu une série d'accidents à cause de ça. Et c'est vrai que quand vous observez autour de vous, parfois, c'est 90% des gens qui sont en train de soit de jouer, soit de... Enfin, les yeux sur leur écran.
Oui, c'est ça. Et en plus, vous nous le disiez en début d'émission, 3 téléphones portables, 3 smartphones par personne.
Absolument.
Dans cette ville énergivore où effectivement on ne regarde pas à la dépense. Le métro est aussi un lieu de friction.
Absolument. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'est peut-être par là que la crise entre les Hongkongais et les Chinois a démarré, quand une malheureuse maman touriste chinoise. Et donc là-bas, on les appelle les mainlanders, donc les continentaux, a eu la mauvaise idée d'ouvrir un petit paquet de nouilles sèches à sa fille qui avait 3-4 ans dans le métro. Or, personne ne mange ni ne boit dans le métro, qui est d'une propreté exceptionnelle. Et là-dessus, elle a tout de suite été repérée, parce qu'on reconnaît tout de suite, un Hongkongais reconnaît tout de suite un continentaux. Pour un...
À quoi?
Bah tout, à leur allure, à la façon dont ils sont habillés. En plus, ils traînent souvent des espèces de valises monumentales, parce qu'ils viennent pour faire leurs courses. Ils remplissent, ils font des pleins notamment de poudre de lait, ce qui a choqué, ce qui a créé des vrais problèmes pour les Hongkongais. Et donc,
Le chinois continental a un look plus plouque entre guillemets. C'est ce qu'on pourrait dire.
C'est ce qu'ils disent. Et ils sont même beaucoup plus sévères que ça. Et donc quelqu'un a dit à cette femme encore un de vous qui ne savait pas vous comporter. Et puis l'événement a dégénéré, il a été filmé, c'est devenu viral, il y a eu des campagnes dans les journaux,
donc vidéos sur les réseaux sociaux.
Exactement.
Entre autres aussi,
voilà.
Tous ces faits divers qui sont très vite relayés.
Voilà, et donc dès qu'il y a une maman qui fait faire un pipi dans la rigole de métro, elle est prise en photo. Alors bien sûr, il y a des incidents plus graves parfois,
comme...
Bon, il peut arriver que des continentaux se soulagent, disons, y compris dans les vestiaires de grandes marques de luxe. Bon, c'est extrême, ça arrive. Mais ce qui est assez amusant, c'est que Léon Conguet, d'un côté, se targue d'être un peu des parangons de vertu et de savoir se comporter, etc. C'est vrai qu'ils font la queue, c'est vrai qu'ils sont très civils. C'est pas non plus des obsédés de la propreté.
Mais finalement, hein. Là, ce que vous nous signalez, ce sont des faits divers de la vie quotidienne. On pourrait qualifier de détails, mais pourquoi ça donne lieu à une telle pression, à une telle cristallisation? Parce qu'il y a la question de l'avenir de Hong Kong en toile de fond aussi.
Absolument. Parce que, en fait, c'est le malaise de Hong Kong qui s'exprime à travers tout ça. C'est-à-dire que Hong Kong, les Hongkongais, pendant très longtemps, ont été le cousin d'Amérique pour la Chine. Un Hongkongais qui allait en Chine, il avait beaucoup plus d'argent qu'un Chinois, il allait dans les grands hôtels, etc. Aujourd'hui, en peu d'années, finalement, ça fait à peine, les 5-10 dernières années, ça s'est accéléré, ce sont les continentaux qui viennent et qui achètent. En ce moment, la dernière statistique, c'est 90% des produits de luxe dans les grandes boutiques. C'est vrai qu'à Hong Kong, surtout dans les beaux quartiers, disons, s'assimile à un très grand shopping mall, centre commercial, avec que les plus grandes marques auxquelles vous pouvez penser. Et aujourd'hui, les clients privilégiés, ce sont les continentaux et c'est plus les Hongkongais. Donc, il y a une forme de jalousie et puis il y a une forme d'inquiétude véritable par rapport à la Chine communiste.
Nous avons quitté le métro de Hong Kong, Florence de Changy, pour monter dans un tram.
Ah, le tram, c'est quelque chose à Hong Kong. D'ailleurs, c'est dirigé par une société française depuis quelques années, Transdev. Et c'est un objet culte un petit peu de la ville. Je dirais qu'il y a le tram et puis les ferries en forme de calissons d'Aix qui passent d'une rive à l'autre. Ça, c'est vraiment les deux modes de transport qui ne sont pas forcément les plus efficaces, mais qui sont les plus anciens et les plus importants dans l'image de la ville, en fait. Les gens aiment beaucoup le prendre. C'est un tram à deux étages.
Il faut rappeler qu'il y a énormément d'embouteillages, bien sûr, à Hong Kong. Enfin, c'est peut-être pas la ville la plus embouteillée, mais on circule très mal.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, en fait. Alors moi, je connaissais quelqu'un qui avait 9 voitures, par exemple, qui faisait d'ailleurs la ville 2 fois par jour. Donc il y a des gens qui ont 9 voitures, célibataires, etc. Mais ça fait partie des gens très, très riches. Comme Hong Kong en a une proportion énorme. Mais la plupart des gens, y compris ceux qui habitent dans ce qu'on appelle les nouveaux territoires, c'est-à-dire la partie continentale de la région administrative, utilisent les transports publics.
Justement, j'allais vous poser la question, entre le tram, le métro, le ferry, les bateaux privés aussi, la voiture, est-ce qu'il y a une hiérarchie sociale dans les moyens de transport pour bouger dans la ville énergivore?
Bien sûr. Il y a, en fait, en haut de l'échelle, si on peut dire, c'est la Rolls-Royce à votre nom sur la plaque, par discrétion, avec évidemment le chauffeur. Et ça se voit. Et puis certaines sont connues parce qu'il y a une Rolls-Royce rose, il y a une Rolls-Royce. Souvent, elles sont d'ailleurs personnalisées de très mauvais goût. Encore que les tycoons sont plutôt discrets. Ensuite, il y a les gens aisés qui ont une voiture. Bon, certains entre les deux en ont 9, comme je vous disais. Et puis la plupart des gens prennent le transport public qui leur correspond. Donc ça peut être le train quand c'est un peu les longues distances. Et train, métro sont assez bien coordonnés. Et puis il y a énormément de bus aussi. Et le tram et les bateaux, les ferries.
Ouais. Hong Kong, la ville énergivore, avec vous Florence de Changy, de forts antagonismes, enfin des frictions, on en parlait, entre les Hongkongais et les Chinois du continent, où l'argent d'ailleurs ne règle pas tout, loin de là, la preuve. On retrouve cette confrontation culturelle aussi dans les boutiques de luxe. On va en parler juste après. Golden Touch, Mami Amuro.
Yeah.
Tamuro qui joue à Hong Kong mais qui est japonaise. D'ailleurs, on parle du luxe avec vous maintenant, Florence de Changy, dans cette ville énergivore. Évidemment, un luxe qui n'est pas du tout accessible à l'ensemble des Hongkongais, parce qu'il y a des Hongkongais pauvres, de classe populaire ou moyenne, qui n'entreront jamais dans une boutique de luxe. Néanmoins, le luxe, vous m'avez dit, c'est vraiment le théâtre où s'expriment les frictions entre les Chinois du continent et les Hongkongais.
Oui, enfin, Hong Kong, effectivement, est un concentré de boutiques de luxe. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais dans un certain, enfin, pendant très longtemps, il y avait en tout cas plus de boutiques de luxe à Hong Kong que dans le reste de toute la Chine. Maintenant, la Chine, qui s'ouvre économiquement, bon, est en train de rattraper. Mais c'est flagrant quand on arrive, mais ça ne s'adresse qu'à, pendant longtemps, les plus riches hongkongais. Et c'est vrai qu'à Hong Kong, il faut savoir que c'est une espèce d'oligarchie. On a quand même 45 milliardaires, ce qui est exceptionnel.
Sur 7 millions d'habitants.
Sur 7 millions d'habitants. Et Forbes, l'année dernière, a calculé que ces 45 milliardaires détenaient 80% du produit intérieur brut, ce qui est quand même effrayant au niveau de la répartition, même 20% ce serait choquant. Donc ça veut dire que bon, d'un côté il y a ces gens-là, mais à vrai dire les Hongkongais font leur shopping de luxe, ils aiment autant venir en France ou en Italie. Et maintenant, comme je vous le disais, c'est surtout les continentaux qui viennent à Hong Kong parce qu'ils ont beaucoup plus confiance dans le label Hong Kong. Hong Kong, ils ont des chances que, enfin c'est pas qu'ils ont des chances, ils sont sûrs que ça va pas être des faux, alors que en Chine, même dans les vraies boutiques Louis Vuitton ou Chanel, ils ont cette espèce de doute par rapport à leur propre pays qui fait que à Hong Kong, il y a une garantie.
C'est ça, l'état de droit, statut particulier de Hong Kong, on y revient toujours.
Tout à fait.
Alors, le luxe, c'est pas seulement les boutiques de sacs, de prêt-à-porter, etc. C'est aussi le vin, le nouvel or rouge.
Absolument. Alors, le vin, c'est une longue histoire d'amour entre
et récente.
Hong Kong. Et tout à fait récente. Alors, pendant longtemps, il y avait un ministre qui, d'ailleurs, aurait dû être le chef de l'exécutif à l'heure où je vous parle et qui ne l'a pas été à cause d'un scandale personnel, qui est, soi-disant, un des plus fins palais de toute l'Asie. Il s'appelle Henri Tang. Il a une des plus belles caves aussi de toute l'Asie. Et il a fortement aidé à l'abolition du vin, de la taxe sur le vin depuis 2007. Ce qui fait que, sincèrement, le vin, le très bon vin français que vous achetez, y compris les champagnes, coûte moins cher à Hong Kong qu'à Paris.
Ah d'accord, donc oui, vous rapportez des très bonnes bouteilles de vin de Hong Kong.
Oui, quasiment, c'est ça. Non, j'étais surprise de constater, par exemple, même une bonne bouteille de champagne. Enfin, vous trouvez du Veuve Clicquot, je sais pas, peut-être moins de 30 euros ou quelque chose comme ça, j'ai pas été
Mais qui est concerné par l'œnologie, par l'amour du vin à Hong Kong, très sérieusement, à part les 45 milliardaires? Non, c'est beaucoup plus. Il y a plus de gens que ça qui sont concernés.
Beaucoup de gens se passionnent pour ça, sans doute un peu trop, mais il faut savoir, et ça c'est vrai pour. Ça s'applique pas qu'au secteur du vin, ça s'applique à tous les secteurs commerciaux de Hong Kong, c'est qu'Hong Kong est une plaque tournante. Donc en fait, les biens passent par Hong Kong et repartent, oui, et en Chine et ailleurs.
Mais les hommes et les femmes qui consomment, qui découvrent le goût du vin, l'amour du vin, qui sont-ils à part les milliardaires?
Ah non, c'est une nouvelle passion. C'est un peu comme l'art contemporain. C'est quelque chose. Enfin, c'est une découverte, disons. Et il y a énormément de gens qui se passionnent pour ça.
Donc,
à tous les niveaux.
Vont prendre des cours d'œnologie, par exemple.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un grand nombre de Français qui viennent avec ce savoir-faire là. Je crois qu'il y a un nombre record de l'ordre de 6000 personnes qui font de l'import-export de vin, ce qui est beaucoup trop pour le marché. Il va forcément y avoir de la chute. Mais c'est vraiment un secteur en plein essor.
Les Français sont assez bien considérés à Hong Kong, ils ont apporté des choses. Il faut en même temps redire que les expatriés à Hong Kong représentent quoi,
toute petite partie,
moins de 2% absolument, de la population, hein, c'est ça. Parce qu'on a toujours cette idée qu'à Hong Kong, il y a plein d'expatriés.
Parce que les gens ne vont que dans les quartiers où il y a des expatriés qui sont tout petits. Mais c'est vrai que les Français qui sont arrivés en masse depuis quelques années, alors certains ironisent sur le fait que c'est des réfugiés politiques ou économiques, ont eu une influence très forte sur le tissu de Hong Kong et notamment des quartiers les plus agréables. Et vous avez de temps en temps des Britanniques, moi je connais j'ai pas mal d'amis anglais bien sûr, qui vous disent it's remarkable à quel point les Français ont une influence. Alors on sent et jalousie et admiration dans cette forte influence française à Hong Kong.
Bon, loin des boutiques de luxe et du vin, il faut tout de même se nourrir à Hong Kong. Alors là, sur les marchés à Hong Kong, là, on est sur le marché de
Wan Chai.
Hein, là, on parle cantonais.
Bien sûr.
Contrairement aux boutiques de luxe où on aurait tendance à parler maintenant mandarin pour séduire la clientèle chinoise du continent.
Absolument. Mais les Hongkongais tiennent beaucoup à leur langue, qui est en fait, qui n'est pas une vraie langue en tant que telle, mais qui est quand même parlée dans tout le sud de la Chine et qui est donc le cantonais, qui est une langue beaucoup plus difficile que le mandarin parce qu'elle a 7 tons et non 4. Et j'étais frappée de voir dans un certain nombre de manifestations récemment, depuis un an ou deux, des jeunes qui avaient comme t-shirt PME. Et alors je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire PME? Bien sûr, c'est pas une petite moyenne entreprise. C'est Putonghua. En fait, c'était non au PME. Et en fait, ça veut dire non au Putonghua, qui veut dire le mandarin, comme mode d'enseignement. Ah. Parce que le gouvernement actuel est très pro-chinois et il semblerait que 70% des maternelles utilisent désormais le mandarin. Si vous utilisez le mandarin à l'école quand vous êtes petit, le cantonais va devenir la langue de la grand-mère et en deux générations, il n'y aura plus cette langue.
Et encore une fois, c'est l'étau qui se resserre.
Absolument.
Sur Hong Kong, son savoir-vivre, ses traditions, son histoire. Alors, on est tout de même là-haut, sur le marché de Wan Chai avec vous, oui. Florence de Changy. Qu'est-ce qu'on mange, par exemple, pour le petit déjeuner à Hong Kong? C'est quoi?
Alors, j'ai pas tout essayé, Dieu m'en garde.
Non, mais les gens qui vous entourent, que vous côtoyez...
Non, mais ce qu'on voit dans la rue, ça peut être effrayant. Hein. Là, par exemple, quand on entend la hache du boucher qui tombe, c'est des choses mal identifiées. Enfin, ils aiment les tripes, il y a des cochons, il y a des tas de choses qui pendouillent, il y a des crochets. Ils sont très créatifs, enfin, comme les Français, mais dans un autre genre.
résister à vous reproposer un tube de canto pop à l'antam avec vous, Florence de Changy, dans cette ville énergivore, mais qui regorge encore de ces tubes assez sirupeux, dans une ville où l'on travaille énormément. Ça, on n'en a pas encore parlé. Ça veut dire quoi, travailler énormément, d'ailleurs, à Hong Kong?
C'est justement le problème, c'est que ce n'est pas chiffré. La ville, l'économie de Hong Kong est l'une des plus libres du monde. Ça veut dire que il y a très très peu de cas cadres légaux, y compris au travail. Il y a un salaire minimum depuis seulement 2 ans. Ça veut dire que jusqu'à il y a 2 ans, on pouvait vous proposer 50 centimes par n'importe quoi, par journée de travail, et c'était à vous d'accepter. Maintenant, il y a un salaire minimum qui est de moins de 3 euros par heure, mais il n'y a pas encore d'heure de travail, par exemple.
J'avais compris qu'on n'était pas aux 35 heures, mais alors non. Ça veut dire quoi,
alors,
la pratique
justement, il y a un comité qui se penche là-dessus depuis 2 ans. Ils se sont rendus compte que plus d'un quart de la population travaille plus de 55 heures par semaine, et puis pour beaucoup on ne sait pas, donc et puis bien sûr le gouvernement est toujours très soucieux de garder son étiquette d'économie la plus libre du monde, et donc ils vont inciter aujourd'hui les sociétés, les entreprises à elles définir des heures de travail, c'est-à-dire on prend pas la responsabilité de dire c'est pas raisonnable de faire travailler vos employés plus de 12 heures par jour, c'est à vous de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a eu des grèves sur les docks parce que c'est un très grand port aussi, Hong Kong, on n'a pas eu le temps d'en parler, et on a découvert que ces gens avaient parfois 10 heures d'affilée sans même une pause pipi. Donc,
et une multitude de petits boulots aussi, puisqu'on n'a que 3% de chômage.
Ah oui, ça
veut dire que tout le monde a un boulot, ou ouais, presque.
Et beaucoup de gens ont même, c'est comme les téléphones, ils ont plusieurs boulots. C'est-à-dire que vous voyez une personne qui était votre garde, le garde de votre immeuble, 2 heures plus tard, vous le voyez en train de balayer dans un restaurant, etc. Parce qu'il cumule, en fait. Alors, il y a aussi des tas de petits boulots qu'on imagine. Je n'imaginerais pas du genre quelqu'un qui vous attend dans l'immeuble et qui appuie pour vous, qui appelle l'ascenseur pour vous. On se sent capable de le faire, mais c'est quand même très agréable d'avoir quelqu'un qui vous accueille avec un sourire et qui appuie et puis qui tient la porte de l'ascenseur pour vous. Quand vous arrivez chez des amis, si vous êtes en voiture et qu'ils sont dans un campagne avec un garde, vous avez un garde qui tout à coup pique un sprint de 50 mètres.
Alors gardien, mais c'est pas au sens sécurité du terme réellement, en fait. Hein.
Bah, non, parce qu'il...
C'est pour vous indiquer l'endroit.
Voilà, alors là, par exemple, oui, il pique un sprint pour vous montrer la meilleure place possible et puis il déploie une énergie et un bonheur incroyable à vous faire un créneau parfait. Ensuite, il vous montre les 2 pouces que c'était vraiment une manœuvre extraordinaire. Et on a l'impression que la journée a été réussie. Bon, ça, c'est des tout petits boulots, mais qui sont faits avec beaucoup d'enthousiasme et ça peut surprendre.
Patron de galerie d'art contemporain, ça aussi, c'est un métier qui a démarré il y a peu de temps à Hong Kong. On peut en dire quelques mots avant de se quitter, Florence?
Oui, absolument. Surtout qu'il y a un certain nombre de grands Français. Alors, par exemple, Perrotin, Malingue, De Sarthe, j'en oublie, qui sont arrivés depuis quelques années seulement et qui contribuent et qui profitent en même temps du boom de l'art contemporain. L'art était quasiment inexistant à Hong Kong il y a seulement 5 ou 6 ans. Et puis, avec la première foire d'art contemporain qui, il y a 3 ans, a été reprise par Basel, maintenant, on est dans l'une des capitales. C'est ça qui est extraordinaire à Hong Kong, c'est que tout se passe tellement vite. Maintenant, Hong Kong fait partie des grandes places asiatiques, et pour les enchères, et pour les salons, et pour les galeries, et donc tôt ou tard pour les artistes, parce qu'ils sont un peu à la traîne.
Spot artistico-financier VIP, c'est ça, hein.
Oui, on peut dire
avec
ça.
Avec l'argent roi et la spéculation, bien sûr,
oui. Et puis quand même avec cette énorme classe moyenne qui souffre, qui est courageuse, qui est exigeante, et qu'il ne faut pas oublier.
Florence de Changy, lorsque vous quittez Hong Kong pour les vacances, qu'est-ce qui vous manque assez vite, finalement, de la ville énergétique? Une sensation, une effluve, un sentiment.
Elle est très fatigante aussi, cette ville, en fait. Donc quand vous la quittez, il y a quand même un espèce de soupir de soulagement. On a l'impression que le bruit s'est éteint, que les lumières se sont tamisées et que on peut reprendre un rythme peut-être un peu plus humain.
Là, vous êtes en Europe depuis quelques semaines.
Oui, la douceur de vivre, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a là-bas. Non, c'est la rage de vivre là-bas.
Il y a quelque chose qui va vous manquer à la fin de l'été où vous aurez inexorablement cette envie de retourner à Hong Kong.
Je vous le dirai, je ne sais pas encore.
Quel avenir pour Hong Kong, finalement? Vous nous le disiez, rétrocession totale dans le giron de la Chine en 2047.
C'est un peu effrayant. On ne sait pas. Les gens de Hong Kong...
On l'a deviné en filigrane pendant toute l'émission, effectivement. Ce doute, cette angoisse, cette inquiétude.
Il n'y a qu'une certitude, c'est que l'avenir de Hong Kong est étroitement lié à l'avenir de la Chine. Et
merci.
C'est la Chine qui décidera.
Merci Florence de Changy de nous avoir fait partager votre vie quotidienne à Hong Kong. Demain est un autre jour. Demain, une autre ville. Demain, une autre vie. dans une ville Orient-Occident, Tbilissi, en Géorgie. Et je vous dis à demain, les voisins et les voisines, sur RFI.